Bien, je vous remercie tous d'être là. Bon rappel, comme je l'ai dit la fois précédente, la semaine prochaine, il n'y aura pas non plus de séminaire et de cours du fait d'événements inattendus pour moi, c'est-à-dire que d'autres événements plus importants auront lieu au collège. Donc, on m'a demandé, et j'ai accepté, de céder la place. Donc, nous reprendrons que dans 15 jours, le 10 décembre, les cours normaux, mais sur un autre sujet. De toute façon, puisque dans les deux dernières séances qui nous restent, nous allons boucler pour nous le dossier palestinien, ce qui malheureusement n'est pas le cas pour les intéressés. Je vous avais laissé la dernière fois à la rencontre de Charmel Cher pour essayer de mettre fin aux événements violents qu'on commence à baptiser comme étant une seconde intifada. Nous sommes donc à la mi-octobre 2000, mais les mesures annoncées à Sharm el-Sheikh ne donnent rien. D'abord parce qu'il y a des réalités de terrain. Bien évidemment, les bouclages, ruptures de communication et autres imposés par les Israéliens rendent extrêmement difficile à l'autorité palestinienne d'avoir une action concrète sur le terrain, indépendamment du fait de savoir si elle veut ou non faire des appels au calme. Toute la question porte sur l'attitude du Tanzim, donc cette organisation armée dérivée du Fatah, dont le chef Marwan Barouti ne veut absolument pas entendre parler d'un retour à la situation antérieure au 28 septembre, puisque, selon lui, les accords d'Oslo n'ont fait que perpétuer l'occupation d'une autre façon. En fait, aussi bien on ne peut pas lancer un soulèvement sur un mot d'ordre, on ne peut pas l'arrêter non plus par un mot d'ordre. Et puis, on a là la rançon du système Arafat, c'est-à-dire un système particulièrement chaotique, avec une multitude de groupes et d'institutions en compétition, avec un Arafat qui ne semble pas donner d'instructions en faveur de la poursuite de la violence, mais qui donne aussi l'impression, tacitement, de la prouver. Donc, ultérieurement, quand les Israéliens auront saisi un certain nombre de documents palestiniens, ils ne trouveront pas d'instructions flagrantes d'Arafat. Au mieux, ce qu'ils ont pu avoir, ce sont des versements d'argent à des activistes connus. Mais cela ne veut rien dire, puisque c'était probablement aussi pour Arafat un moyen de les contrôler que de les financer. Et il y aura controverse dans les systèmes de renseignement israéliens pour savoir s'il y a eu volonté ou non de la direction palestinienne de lancer une insurrection et d'abandonner le processus de paix. Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, le seul élément sûr est qu'il n'y a pas eu d'organisation préalable d'un soulèvement armé, et que la réponse à la question des origines du soulèvement se trouve non dans la bureaucratie palestinienne, mais dans la sociologie créée par les accords d'Oslo. Comme l'expliquera Ajoub aux Israéliens, on ne peut avoir une coexistence pacifique et en même temps le maintien de l'occupation. Toujours est-il que dans cette seconde quinzaine d'octobre, Arafat peut se sentir gagnant, alors que depuis Camp David II, il se trouvait dans une situation de marginalisation et soumis à d'intenses pressions. Il est maintenant revenu au centre de la scène et le Fatah a repris la direction du mouvement national palestinien, le Hamas étant très marginalisé dans le soulèvement en cours. mais c'est un jeu dangereux d'en donner les rapports de force. Arafat risque de perdre la relation avec les États-Unis qu'il a cherché à construire depuis Oslo I, et en même temps, il ne peut pas se couper de l'opinion publique palestinienne. On comprend ainsi l'ambiguïté de ses prises de position, mais si on ne débouche pas rapidement sur une solution politique, on risque d'en entrer dans un processus d'escalade continue de la violence. Violence qui s'exerce en particulier dans les relations de voisinage. Ainsi, dans le quartier colonie juive de Gilo à Jérusalem-Est, se trouve exposé aux tirs en provenance des villages arabes voisins. Alors on fait des murs de séparation rapides, puis on réplique sur des tirs sur les villages arabes en face. Autre problème, par exemple, les Israéliens lancent des opérations de capture des gens qui ont participé au lynchage de deux soldats israéliens à Ramallah. Mais les Palestiniens, eux, s'en prennent aux télévisions étrangères qui ont donné aux Israéliens les images non floutées de l'affaire. Ailleurs, des colons armés tirent sur des Palestiniens en invoquant la légitime défense. Les 40 000 habitants de Ramallah sont mis sous couvre-feu pour assurer la sécurité des 500 colons israéliens. La bataille médiatique fait rage. L'armée israélienne est en mauvaise position et tente de se défendre en fournissant ses propres images à la presse internationale afin de prouver que ce sont les Palestiniens qui tirent sur les soldats israéliens. Mais la réponse immédiate est regarder le nombre de victimes et le nombre de morts des deux côtés. La question se pose en particulier sur le nombre d'enfants palestiniens touchés à la tête. Les Israéliens accusent les Palestiniens d'exposer cyniquement des enfants au risque de se faire tuer, mais les propos officiels israéliens sont confus. Il n'y a pas honte de tirer dans la tête. Si on doit tirer, c'est au-dessous de la ceinture. Mais il ne reste pas moins que les victimes ont bien été touchées à la tête par des tirs de tireurs d'élite israéliens. Il y a incompréhension chez les militaires israéliens. Avec leur puissance de feu, ils pourraient faire beaucoup plus de victimes. Donc, si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils exercent de la force avec retenue. Pour expliquer le nombre de morts palestiniens, les responsables militaires israéliens expliquent par ailleurs qu'ils sont en pénurie d'armement non mortel, ce qui contredit leur affirmation qu'ils étaient prêts à affronter un soulèvement palestinien, à moins d'utiliser massivement les armes à feu. Les Israéliens ne peuvent pas évidemment contrôler les télévisions arabes. Leur principale préoccupation porte sur les médias anglo-saxons, et ils exercent de fortes pressions sur CNN et la BBC, accusés de partialité pro-palestinienne et d'antisémitisme. Mais si on peut agir sur des médias institutionnels, d'État ou privé, il n'en est pas de même pour l'Internet, qui agrège, déjà à cette époque, des milliers, voire des dizaines de milliers, d'initiatives individuelles. Autrement dit, la seconde intifada est déjà un premier événement, en gros, qui est charrié par l'Internet et donc non plus par les grands médias internationaux. Le conflit a donc des répercussions sur les opinions publiques, en Europe en particulier, et provoque de multiples incidents entre communautés juives et communautés musulmanes, puisque les deux communautés ont tendance à s'identifier fortement avec les protagonistes du conflit. Et donc, partout en Europe, les autorités publiques appellent au calme et à la retenue. Barak se trouve accusé à la fois de mollesse et de dureté. Il a échoué dans son projet d'établir un gouvernement d'unité nationale avec le Likoud, puisqu'après tout, l'opposition n'a aucune raison de venir au secours d'un gouvernement en perdition. Barak a besoin de trouver une perspective politique et fait étudier la possibilité d'une séparation unilatérale et graduelle. On établirait ainsi progressivement des grands blocs de colonisation et de contrôle de la vallée du Jourdain, et on travaillerait petit à petit à séparer les infrastructures et les réseaux. Sur les papiers, on pourrait y arriver, mais on ne voit pas comment faire fonctionner une entité palestinienne enclavée et tronçonnée. Déjà, le camp de la paix note qu'un tel projet implique le maintien de milliers de soldats sur le terrain pour assurer la sécurité des colonies, tandis que les colons s'y opposent parce que ça impliquerait le démantèlement d'implantations isolées et la restriction de la liberté d'installation. Alors, événement typique de cette période, le 19 octobre, une excursion de colons israéliens autorisée par l'armée sur une hauteur près de Naplouse se trouve prise sous le feu des habitants d'un camp de réfugiés palestiniens situé à proximité. Chaque parti accuse l'autre d'avoir ouvert le feu en premier. Il y avait des enfants dans le groupe d'excursionnistes, mais plusieurs des excursionnistes étaient armés. Il faudra à l'armée israélienne plusieurs heures, dans des conditions difficiles, pour dégager les gens. Un rabbin est tué et quatre excursionnistes blessés. Du côté palestinien, on enregistre un mort et 11 blessés. Barak y voit une rupture flagrante du cessez-le-feu et accuse les Palestiniens d'avoir tiré sur un hélicoptère de combat qui cherchait à récupérer des blessés, mais le dit hélicoptère avait aussi tiré sur les Palestiniens. Les habitants du camp palestinien affirment qu'ils ont cru à une attaque de représailles des colons, ce qui est un fait assez courant, et qu'ils se sont défendus. Donc chacun a une logique défensive, mais les logiques défensives conduisent à de nouveaux affrontements. Donc, en deux jours après Sharm el-Sheikh, on a déjà 8 Palestiniens tués en Cisjordanie, la plupart tirés de balles tirées dans la tête. Le 21 et 2 octobre, se tient au Caire un sommet arabe extraordinaire, comme vous pouvez voir sur la photo. Arafat y prend un ton radical, promettant que son peuple continuera de lutter jusqu'à la victoire et accusant Israël de procéder à un massacre collectif. Le gouvernement israélien parle de provocation sans fondement. À la fois, le ton est dur au Caire, mais chaque État arabe reste libre de fixer les mesures à prendre. L'Arabie saoudite promet une aide financière aux Palestiniens. La Tunisie ferme son bureau de liaison à Tel Aviv, ce qui est ensuite imité par le Maroc. On est maintenant à 129 morts depuis le début des émeutes, soit 109 Palestiniens, 12 Arabes israéliens, 7 Israéliens juifs et un soldat druze. La question des enfants revient en permanence, puisque les enfants sont en général au premier rang des manifestations. Les Israéliens accusent les Palestiniens d'utiliser des boucliers humains, voire de les sacrifier afin de jeter l'opprobre sur l'armée israélienne. Les Palestiniens répliquent qu'à une distance de 200 mètres, ce qui est la distance moyenne entre les soldats israéliens et les manifestants, il n'y a pas risque de recevoir des pierres. Les jets de pierres ne portent pas à 200 mètres. Et que les tirs ont bien pour but de tuer ou de rendre invalides les manifestants. Autre élément de controverse, ce qu'on appelle les tirs de retour, c'est-à-dire les tirs israéliens sur les lieux supposés dont sont partis des tirs contre les Israéliens. Les Palestiniens parlent de tirs à l'aveuglette causant de nombreuses victimes civiles. Il ne peut pas s'agir de victimes collatérales, mais d'une volonté de frapper les populations et afin de les conduire à s'opposer au soulèvement. Le 25 octobre, ce qui est assez rare, un attentat suicide à vélo ne fait qu'un blessé dans l'armée israélienne à Gaza. cette action revendiquée par le djihad islamique est la première de ce genre, puisque là, on n'avait pas d'attentat suicide depuis le début du mouvement. Et en plus, un attentat suicide à vélo, c'est rare. Mais dans la même période, on commence à voir la multiplication de cas de bombes artisanales sur les routes de Cisjordanie. L'emprunt aux méthodes de Hezbollah au Liban Sud est absolument flagrant. Le 27 octobre, nouveau jour de colère, la mort de 5 Palestiniens. Après la mort de 2 civils israéliens à Jérusalem, l'armée israélienne utilise des hélicoptères pour s'en prendre aux installations du Fatah. Ce sont des avertissements, selon Denis Yatom, conseiller de Moubarak, je cite. Ces attaques ne constituaient pas une punition, mais une forme de dissuasion pour faire comprendre que l'armée israélienne a les moyens et les capacités d'infliger des coups beaucoup plus durs aux institutions et aux intérêts de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne parle d'escalade dans la violence de la part de l'armée israélienne et explique que plus on lui porte des coups et la démantèle, moins elle est dans la capacité de contrôler les mouvements de la population. En Israël, on tente encore une dernière manœuvre entre les Likoud et Barak, mais cela échoue. Cela dit, des manœuvres parlementaires permettent de maintenir le gouvernement minoritaire au pouvoir. Peres est envoyé négocier avec Arafat, mais cela ne donne rien, sauf un appel conjoint au cessez-le-feu le 2 novembre. Mais l'appel a lieu en début d'après-midi, une heure après une voiture piégée explosant dans la partie juive de Jérusalem qui a fait 2 morts et une dizaine de blessés. Barak accuse Arafat de laxisme, tandis que le Hamas justifie l'action comme représailles sans la revendiquer. Elle sera ultérieurement revendiquée et attribuée au djihad islamique. 3 Palestiniens sont tués le même jour, mais on note quand même une certaine diminution du nombre d'incidents violents, ainsi qu'un effort des forces de sécurité palestiniennes pour rétablir un certain calme. Cette relative tentative d'apaisement se poursuit les jours suivants, bien que la base du Fatah est toujours radical et veut la poursuite de la lutte jusqu'à l'indépendance. De même, du côté israélien, on soupçonne les Palestiniens de vouloir conduire les Israéliens à une très grosse bavure, entre guillemets, qui conduirait à une intervention internationale. Donc des ordres stricts sont donnés pour éviter ce genre de situation. La question essentielle pour Israël, c'est d'éviter une internationalisation de la crise. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut attendre, c'est les résultats de l'élection présidentielle américaine qui a lieu le 7 novembre. Ensuite, les Américains pourront revenir sur la scène politique. Mofaz, le chef d'état-major de l'armée israélienne, est ouvertement opposé à la poursuite des négociations puisque pour lui, on ne peut pas tirer et parler. Barak est ambigu, alternant les propositions de discussion et les appels à la fermeté, tout en insistant sur la nécessité de restaurer préalablement la capacité de dissuasion israélienne. En dépit de ces rationalisations postérieures, il expliquera bien après qu'il aurait cherché à montrer qu'Arafat ne cherche pas vraiment une solution politique, il n'est pas sûr qu'il sache lui-même où il veut en venir. Il est plutôt en train d'agir sur l'instant, sans ligne directrice, soumis aux pressions contradictoires de sa faiblesse politique intérieure, de l'évolution de la situation sur le terrain, des demandes de la communauté internationale et des États-Unis. Il est prisonnier des 2 images qu'il a cherché à mettre en avant, le combattant le plus décoré de l'armée israélienne et le héros de la paix, et il tente d'assurer sa survie politique. « La violence se maintient dans cette période à une relative basse intensité, un ou deux morts par jour. Les responsables israéliens voient la preuve qu'Arafat a bien la capacité de contrôler la situation, mais ils ne prennent pas en compte que c'est eux qui exercent avec retenue l'usage de la force. Une fois l'élection du 7 novembre passée, la violence remonte. Le 9, l'armée israélienne opère son premier assassinat ciblé d'un cadre de Tanzim par un tir d'hélicoptère contre son véhicule, tuant deux femmes en tant, au passage, comme victimes collatérales. Le porte-parole de l'armée israélienne justifie ainsi l'opération. « Nous frapperons tout ce qui met en danger la vie de citoyens israéliens. Quant aux victimes civiles, elles sont inévitables, selon son discours. » Mais dans ce mécanisme d'engrenage, ce qui est pensé et présenté par les Israéliens comme une dissuasion pour arrêter la violence provoque au contraire une remontée de violence par un désir de vengeance collective qui se manifeste en particulier lors des obsèques des victimes. Les Israéliens font tout aussi pour essayer d'éviter que les Américains envoient des observateurs internationaux dans les territoires, même selon les modalités d'inefficacité qui étaient celles appliquées à Hébron. Ce qui compte, c'est le principe, il faut éviter toute internationalisation. En revanche, on accepte la nomination de l'ancien sénateur George Mitchell, qui a été le médiateur dans le règlement de la question de l'Irlande du Nord, comme président de la commission d'enquête sur l'origine des troubles. Les autres membres de la commission sont l'ancien président turc Süleyman Demirel, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne Javier Solana, l'ancien militaire, le sénateur américain Warren Rudman et le ministre norvégien Fornbon Jackland, mais ça, je ne vous garantis pas la prononciation. J'essaie de retrouver les noms quelque part. Non, c'est pas ça. Pour la première fois, le 8 novembre, Barak évoque explicitement la possibilité d'établir un État palestinien. Je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins face à un dilemme. Soit nous reprenons des négociations qui, sur la base des idées évoquées à Camp David, conduiront à la création d'un État palestinien viable, soit nous nous laissons entraîner sur la voie de la violence d'une initiative palestinienne unilatérale susceptible d'alimenter une instabilité chronique dans la région, de faire peser une lourde menace sur les pays modérés voisins et de mettre en péril la stabilité régionale et les intérêts du monde. » Ross a préparé pour Clinton tout un jeu de propositions que l'on commence à définir comme étant des paramètres. Les Palestiniens doivent s'accommoder d'une solution qui leur accorde dans les mi-90%, aux alentours de 95 si vous préférez, des territoires qui seraient démilitarisés et soumis à différentes exigences de sécurité. Pour Jérusalem, on progresse. Ce qui est arabe sera palestinien, ce qui est juif sera israélien. Pour le Haram, chaque parti aura le contrôle de ce qui est sacré pour lui. Sur les réfugiés, il faut être franc, il ne peut y avoir de droit au retour en Israël, mais on pourra constituer un large fonds international de compensation. Clinton devra savoir si Arafat considère que ses propositions sont dans « in the ballpark » en anglais, ça veut dire en gros c'est s'il est dans ce qu'il peut accepter. Dans ce cas, on travaillera à obtenir un accord, sinon on n'ira pas plus loin. Clinton reçoit Arafat le 9 novembre. Il doit d'abord lui expliquer les complications de la vie politique américaine avec l'affaire du recompte des voix de Floride pour pouvoir trancher entre George W. Bush et Al Gore comme président des États-Unis. Je vous rappelle, il y a contestation des résultats de la présidentielle et on demande un recompte des votes d'une partie de la Floride et ça peut changer le résultat global de l'élection. De toute façon, Clinton insiste, il ne sera pas président après le 20 janvier et donc si on peut faire quelque chose, c'est maintenant avec lui puisqu'après le 20 janvier, le jeu sera différent. Le président somme à Arafat d'accepter les paramètres. Arafat répond qu'il veut d'abord bien comprendre ce qu'il signifie. Et là, évidemment, on est dans une opposition, une incompréhension. Les Palestiniens ont été traumatisés par le vague des textes d'Oslo 1 qui font que finalement, ils se sont retrouvés avec Oslo II dans une interprétation extrêmement restrictive de l'accord précédent. Donc ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation. Ils veulent un texte complet, déterminé et surtout extrêmement précis. Mais pour les Américains, ce n'est pas le cas. Il s'agit de principes. Et non pas de négociation. Donc, on est dans une situation toujours ambiguë. Arafat finit par reconnaître que les principes sont acceptables et semble indiquer que les Palestiniens accepteraient 98% de la Cisjordanie. Je vous rappelle que déjà, on ne sait jamais sur quoi se portent les 100%. C'est la Cisjordanie plus Jérusalem ou la Cisjordanie sans Jérusalem. Ce n'est pas la même chose quand on fait le calcul de pourcentage. Clinton pense que 98% est une position de négociation, mais que les Palestiniens céderont à 95% si la contiguïté territoriale est assurée, ainsi qu'un passage sécurisé pour la bande de Gaza. Je vous rappelle encore une fois que continuité est extrêmement ambiguë en anglais, puisque ça peut tout aussi bien dire continuité que côté adjacent sans continuité territoriale. Je rappelle que les Israéliens sont parfaitement conscients de l'ambiguïté du terme, puisque quand ils parlent des colonies, ils veulent une continuité et pas une contiguïté avec le territoire israélien. En ce qui concerne Jérusalem, on pourrait avoir, Arafat voudrait la totalité des quartiers arabes avec un statut spécial pour la vieille ville et le Haram, mais avec la souveraineté israélienne. Ensuite, Arafat va à New York à l'ONU, où il est reçu par les conseils de sécurité, où il demande la création d'une force internationale de sécurité. Le 11 novembre, pendant cela, il y a 8 Palestiniens et un soldat israélien sont tués. Retardés par les événements, la rencontre Barack Clinton a lieu dans la nuit du 12 au 13 novembre. Les Américains lui expliquent le contenu des discussions avec Arafat, mais Barack refuse de prendre position sur les paramètres américains en marquant son refus de négocier sous la violence et laisse entendre que la paix n'est peut-être pas pour maintenant. Il énonce déjà un discours en disant que accepter l'ensemble des demandes palestiniennes constituerait un suicide pour Israël. Cela dit, le soulèvement est en train de changer de nature. Le 13 novembre, 4 Israéliens sont tués dans 3 embuscades dans les territoires. Le même jour, 3 jeunes Palestiniens sont tués. Le lendemain, ces opérations sont revendiqués par une organisation nouvelle qui a pour nom les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. Il semble qu'il s'agisse d'un ensemble de groupes radicaux, plus ou moins en concurrence dans la mouvance du Fatah. Barouti leur assure une aide financière assez modique tirée des caisses d'Arafat. Aucun des deux responsables, palestiniens, ni Arafat ni Barouti, ne paraît avoir donné des instructions directes, mais il leur laisse à ces brigades une large latitude d'agir. De toute façon, toujours la question du financement est ambiguë. Dans le système arafatiste, on finance tout le monde et le contraire de tout le monde afin de pouvoir les contrôler. Et on voit très bien que les brigades d'Al-Aqsa organisent aussi des prélèvements sur la population financiers, des taxes, dans des villes comme Naplouse, ce qu'on appellerait dans d'autres contextes un impôt révolutionnaire. Et ces brigades comprennent une large part d'anciens délinquants apparus lors de la désocialisation de la jeunesse durant la première intifada. C'est là, évidemment, le choc au retour des mesures israéliennes de 1990, quand le système scolaire a été fermé d'office dans les territoires palestiniens par les Israéliens, comme mesure de sanction contre la population. Le résultat, c'est avoir créé une masse de jeunes gens mal scolarisés qui sont entrés dans la délinquance et qui ensuite participent activement parmi les éléments les plus radicaux de la seconde intifada. Dans la bande de Gaza, on a la concurrence entre le Hamas et le Fatah. Si le Fatah ne fait rien, le Hamas va prendre prépondérance. Enfin, dans tout ça, il faut aussi voir la perception palestinienne de l'histoire du mouvement sioniste. Les gens de l'autorité palestinienne, pour les Palestiniens, l'autorité palestinienne et ses services de sécurité seraient l'équivalent de l'agence juive et de la Haganah d'avant 1948. Et donc, les brigades d'Al-Aqsa seraient l'équivalent de l'Irgun et du groupe Stern, c'est-à-dire des mouvements théoriquement indépendants de la direction palestinienne. Les Arabes n'ont d'ailleurs jamais cru à une véritable distinction entre l'Irgun, le Stern et la Haganah en 1948. Et on peut se rappeler d'ailleurs que quand Nasser avait rencontré pour la première fois Arafat en 1968, il lui avait dit « Vous serez mon groupe Stern ». Donc cette perception de l'histoire arabe, enfin l'histoire sioniste par les Arabes, entre aussi en jeu. C'est donc la question de savoir si la militarisation de l'intifada, comme on commence à appeler cette affaire, est préméditée ou non. Elle paraît plus comme le produit de la disproportion du nombre de morts dans les rangs israéliens et palestiniens et les appels à des représailles après les actions de répression israélienne. Par ailleurs, les chefs des services de sécurité, Darlan à Gaza et Rajoub en Cisjordanie, se tiennent en retrait sans combattre l'action des brigades. Le seul dans la direction palestinienne à s'opposer à la militarisation, c'est Mahmoud Abbas, Abou Mazen, qui condamne explicitement ce glissement vers l'usage des armes. On est maintenant à 219 morts, dont 24 Israéliens juifs, civils pour la moitié d'entre eux, et 13 Israéliens arabes. Les villes autonomes sont mises sous blocus, les bureaux du Fatah sont détruits par des tirs d'hélicoptères. Le 15 novembre se passe sans proclamation d'un État palestinien, on aurait pu attendre que c'était la nouvelle date limite. On se contente de commémorer la proclamation de l'État palestinien à Alger en 1988. À la suite d'un appel téléphonique de Clinton, Arafat lance un nouvel appel au cessez-le-feu qui n'a aucun succès. Le bilan de la journée est de 8 tués palestiniens. Vers le 20 novembre, on assiste à une diminution de la violence. Les consignes semblent mieux respectées, mais c'est lié aussi au glissement en cours entre le mouvement populaire qui est en train de s'essouffler et le début de la militarisation du soulèvement. De ce fait, le calme ne dure que jusqu'au 20 novembre, où une bombe sur une route au passage d'un bus scolaire de colons dans la bande de Gaza fait 2 victimes israéliennes, des accompagnateurs adultes. Des raids aériens de représailles détruisent les bureaux des services de sécurité à Gaza, faisant 2 morts palestiniens, ce qui provoque à la grande surprise des Israéliens le rappel de l'ambassadeur d'Égypte à Tel Aviv. Celui de Jordanie, lui, n'était même pas venu prendre ses fonctions. Le fait que les Américains adressent des condoléances aux Israéliens et pas aux Palestiniens provoque la colère du côté des Palestiniens. Le lendemain, 3 Palestiniens sont tués dans différents attentats, l'un dans la bande de Gaza, les 2 autres en territoire israélien proprement dit. Parallèlement, 4 Palestiniens sont tués dans la bande de Gaza. On tente de maintenir un minimum de coopération entre services de sécurité, mais ça devient de plus en plus difficile, tandis que des filières secrètes, les fameux Canal 2, etc., reprennent leur activité. De son côté, le Hezbollah entre en jeu en tuant un soldat israélien dans le secteur des fermes de Sheba le 26 novembre, ce qui provoque des tirs de réplique d'Israël. La diplomatie internationale s'interpose pour éviter une escalade. Finalement, Barak décide d'en terminer avec l'impasse politique en annonçant le 28 novembre la tenue d'élections anticipées, aussi bien pour la fonction de Premier ministre que pour la Knesset. Il considère qu'il peut quand même les remporter, ces élections, dans la mesure où son seul rival politique, c'est Ariel Sharon, qui apparaît encore comme peu populaire. Mais le pari reste risqué puisque les travaillistes ne peuvent plus disposer du vote arabe depuis les événements du mois de septembre. Alors, Barak essaye de négocier avec l'opposition le calendrier électoral. Cela échoue et il prend de nouveau tout le monde par surprise en annonçant le 9 décembre sa démission de la fonction de Premier ministre, ce qui implique qu'il n'y aura que des élections pour le poste de président et pas d'élection parlementaire. Puisque nous sommes à la dernière fois où en Israël, on élit directement le président du Conseil. Et donc dans un délai de 60 jours. En fait, c'est une manœuvre habile ou faussement habile de Barak, puisque dans le cas de démission du Premier ministre et de retour à une élection de poste de Premier ministre, il faut que les candidats à la présidence du Conseil soient déjà députés. Ce qui exclut Netanyahou, qui a démissionné de son poste de député au lendemain des élections précédentes. Donc Netanyahou, pour essayer de pouvoir revenir dans la danse, essaye, lui, d'obtenir une dissolution de la Knesset. Et donc, il voudrait qu'une majorité de députés vote la dissolution de la Chambre. Mais, curieusement, les parlementaires ne sont pas du tout pressés de revenir devant les électeurs, ce qui fait que la demande de dissolution de Netanyahou ne reçoit pas une majorité. De plus, pour pouvoir candidater, il faut obtenir le soutien d'au moins 10 députés, ce qui exclut une candidature arabe du fait de la division politique des Arabes israéliens entre nationalistes de gauche et islamistes. Donc, Barak a réussi sa première manœuvre en empêchant Netanyahou de candidater, et donc il n'a que Sharon comme adversaire, et Sharon est moins populaire que Netanyahou. Or, les premiers jours de décembre voient un retour très relatif au calme. La commission Mitchell commence ses travaux. L'Égypte offre une médiation conduite par Omar Suleiman, le chef des services secrets. Moubarak assure qu'il n'y aura pas de changement majeur dans les relations de son pays avec l'État hébreu. Dans les filières secrètes, donc l'égyptienne et l'autre, on se heurte toujours au même problème, celui de l'esplanade des mosquées. Reconnaître que c'est un lieu saint pour l'autre religion n'est pas nécessairement accepter sa revendication de souveraineté. C'est ça, donc les Israéliens disent, nous reconnaissons que c'est un lieu sacré pour les musulmans, mais ça n'interdit pas que nous revendiquions la souveraineté. Et les autres disent, non, si c'est un lieu sacré pour nous, on ne peut pas céder sur la souveraineté. 8 décembre, jour de colère et anniversaire de la première intifada, pic de violence avec la mort de 7 Palestiniens et de 3 Israéliens. Et on remonte à un niveau élevé de violence. De plus, entre les morts habituelles dans les échauffourées, il y a manifestement des assassinats ciblés d'activistes palestiniens. Il semble, dans l'état actuel des connaissances, que ces assassinats sont directement menés par l'armée israélienne sans en référer au gouvernement israélien. La commission Mitchell, donc, arrive dans un pays où le premier ministre et des missionnaires. Israéliens et Palestiniens s'opposent sur les compétences de la commission. Les premiers tentent de démontrer que le recours à la violence a été prémédité par Arafat, tandis que les seconds en font une conséquence inévitable de la poursuite de l'occupation. Pour l'autorité palestinienne, c'est reconnaître que Oslo n'a pas mis fin à l'occupation. Et donc la discussion en plus se complique du fait que théoriquement c'est l'OLP et non l'autorité palestinienne qui discute avec la commission Mitchell, puisque en théorie l'autorité palestinienne n'a que des compétences dérivées des autorités d'occupation et n'a pas de compétences en relations internationales. Donc quand Israéliens et Palestiniens négocient, au moins formellement, la partie palestinienne le fait au nom de l'OLP et non pas au nom de l'autorité palestinienne. La nouvelle date limite, elle est claire, c'est le 20 janvier, avec la fin du mandat de Bill Clinton. De plus, quelques jours après le 20 janvier, il y aura l'élection israélienne du nouveau Premier ministre. Alors, les Égyptiens proposent un règlement partiel plutôt en faveur des Palestiniens. Les Israéliens évacueraient dans les 6 mois 90% de la Cisjordanie pendant qu'on mènerait des négociations intensives sur le statut permanent. Une fois le résultat obtenu, 5% supplémentaires seraient rétrocédés. S'il n'y a pas d'accord, on passerait à une conférence internationale et on diffère le règlement de Jérusalem et du Haram. L'entourage d'Arafat fait savoir que désormais, la consigne est de conclure. Le 12 décembre, Arafat le confirme à Ross lors d'une rencontre au Maroc. Selon le récit de l'Américain, Arafat aurait acquiescé à ce qui pourrait être considéré comme les dernières positions de Barak, 94-95% de la Cisjordanie. Pour Jérusalem, le principe de ce qui est arabe aux Palestiniens, ce qui est juif aux Israéliens, le contrôle de la surface du Haram aux Palestiniens, le sous-sol des Israéliens, pas de droit au retour des réfugiés, sauf pour quelques milliers de personnes à titre humanitaire. La priorité serait donnée aux Palestiniens du Liban. Les sources palestiniennes sont plus ambiguës, il ne semble pas évoquer un accord total, contrairement à ce que dit Ross dans ses mémoires. Du 14 au 16 décembre se tiennent 3 jours de négociations intensives entre les équipes palestiniennes et israéliennes. On oppose, comme d'habitude, la justice du côté des Palestiniens et la sécurité du côté israélien, de même contiguïté ou continuité. Donc, tous ces débats classiques. Du côté des travaillistes, Peres se pose en rival de Barak pour l'élection. Il pourrait présenter sa candidature. Mais comme Barak a déjà le soutien des députés du Parti travailliste, il faudrait que ce soit la gauche, plus à gauche que les travaillistes, c'est-à-dire le Meretz, qui puisse soutenir la candidature de Peres. Le Meretz refuse. En fait, c'était totalement ambigu parce qu'il était connu que les positions de négociation de Peres étaient beaucoup plus intransigeantes que celles de Barak. Donc, présenter Peres comme le champion de la paix par rapport à Barak était absurde, puisque, par exemple, Peres n'avait jamais admis le principe d'un État palestinien. Alors, tout ça, évidemment, perturbe tout le système. Le 19 décembre, les 2 délégations se retrouvent sur la base militaire américaine de Boeing Air Force à proximité de Washington. Ross les sermonne, c'est l'heure de vérité, soit on a un accord, soit il n'y en aura pas pour longtemps. Il s'entretient ensuite séparément avec les 2 délégations. À la demande des Israéliens, il affirme aux Palestiniens qu'il faudra s'attendre à une élection de 7% de la Cisjordanie. Mais plus tard, dans les discussions, il dit que le chiffre pourrait être réduit à 5%. La question essentielle abordée est Israël. On travaille sur des cartes et des photographies aériennes pour déterminer ce qui est juif. Et Jérusalem, pardon, pour déterminer ce qui est juif et ce qui est arabe. Les Palestiniens proposent d'échanger la reconnaissance des 11 quartiers juifs de Jérusalem-Est contre la souveraineté sur l'esplanade des mosquées. Ben Ami se trouve prêt à accepter une formule qui n'inclurait pas la souveraineté israélienne, mais qui comprendrait la reconnaissance par les Palestiniens de la sacralité du lieu pour le peuple juif et de sa centralité dans l'histoire juive. Les Palestiniens ne pourraient pas conduire des excavations sous le site afin de ne pas toucher au Saint des Saints et accepteraient que les Juifs puissent prier à un emplacement convenu du Haram. Ce dernier point provoque un rejet immédiat de la part des Palestiniens et le ton monte rapidement. Sur le territoire, on en reste aux positions de Camp David. Les Palestiniens sont prêts à céder que 4% de Cisjordanie avec des échanges de territoire de valeur équivalente. Ben Ami semble vouloir outrepasser le cadre fixé par Barak, mais les autres membres de la délégation s'y opposent. La division dans l'équipe de négociation israélienne est parfaitement perçue par les Américains et par les Palestiniens. Le 23 décembre, Clinton convoque les 2 délégations. À la Maison-Blanche. Dans sa déclaration préalable, il se montre ferme. Les idées qui vont être présentées constituent le point ultime des efforts américains et non un point de départ pour de nouvelles négociations. On devra négocier à l'intérieur de ces paramètres, mais non sur les paramètres qui, de toute façon, cesseront d'être valides une fois son départ du pouvoir. Chaque parti aura 5 jours pour répondre par un oui ou par un non. Une non-réponse ou un peut-être sera considérée comme un non. Le président ensuite dicte ce qui va devenir dans l'histoire les paramètres de Clinton. La solution doit comprendre le transfert de 94 à 96% de la Cisjordanie à l'État palestinien. Les annexions devront être compensées par le transfert de territoires israéliens équivalent à 1 à 3% de la Cisjordanie. En plus, il faudra parvenir à des arrangements territoriaux comme un passage protégé entre la Cisjordanie et Gaza et des locations de terres à bail. Les parties devraient tracer une carte selon les critères suivants. 80% des colons seraient regroupés dans des blocs d'implantation. La contiguïté des territoires des deux parties serait assurée. La taille des territoires annexés et le nombre de Palestiniens affectés seraient réduits au maximum. La sécurité doit prendre en compte les besoins légitimes des Israéliens et respecter la souveraineté palestinienne. La solution réside dans une présence internationale à laquelle il ne pourra être mis fin qu'avec le consentement mutuel des parties. Citation, « À mon sens, le retrait israélien devrait s'étaler sur une période de 36 mois, la force internationale étant introduite graduellement dans la région. À la fin de cette période, une petite présence israélienne serait maintenue dans des lieux déterminés de la vallée du Jourdain sous la responsabilité de la force internationale pendant 36 mois supplémentaires. Cette période pourrait être réduite dans l'hypothèse de développements régionaux favorables qui réduiraient les menaces dirigées contre Israël. Israël devrait conserver 3 stations d'alerte et de détection en Cisjordanie. Les Palestiniens y maintenant la présence d'une liaison permanente. Le statut de ces stations ferait l'objet d'un réexamen après une période de 10 ans, tout changement devant faire l'objet d'un accord entre les parties. Pour les zones de déploiement d'urgence, il faut d'abord définir ce qu'est une urgence, c'est-à-dire une menace imminente éprouvée contre la sécurité nationale d'Israël, de nature militaire et nécessitant l'activation d'un état d'urgence national. L'espace aérien serait sous souveraineté palestinienne, mais devra prendre en compte les besoins opérationnels et l'entraînement de l'aviation israélienne. L'État palestinien devrait être démilitarisé, tandis que les Palestiniens s'entraînent à état armement limité. Alors, la proposition de Clinton, c'est État non militarisé. Ça, les diplomates sont très forts pour ce genre de changement de terme. Alors, la divergence sur Jérusalem et les réfugiés porte plus sur les formulations que sur les réalités pratiques. Pour Jérusalem, je cite, « Le principe général est les secteurs arabes sont palestiniens et les secteurs juifs israéliens. Cela s'appliquerait également à la vieille ville. Je vous conseille vivement de travailler à une carte afin d'établir un maximum de contiguïté au sein des zones respectives. Au sujet du Haram et Shérif Mont du Temple, je crois que les divergences ne portent pas sur la gestion au quotidien, mais sur le problème symbolique de la souveraineté et la nécessité de trouver un accord respectant les croyances religieuses des deux parties. Je sais que vous n'êtes tombé d'accord sur aucune des formules que vous avez examinées. Je vous propose 2 autres formules garantissant le contrôle effectif du Haram par les Palestiniens tout en respectant les convictions du peuple juif. Aucune de ces 2 formules ne comporte le principe d'une surveillance internationale destinée à renforcer la confiance mutuelle. Alors, les formules passent le mur occidental pour le judaïsme et pas de fouille là où se trouverait le Saint des Saints. Ou de discussion de ce qu'on appelle des souverainetés fonctionnelles sur le Haram. Pour les réfugiés, Israël reconnaîtrait les souffrances morales et matérielles subies par le peuple palestinien à la suite de la guerre de 48 et la nécessité d'aider à la communauté internationale pour aborder le problème. Et on devrait établir une commission qui se chargerait des dédommagements, la réinstallation, les réadaptations des réfugiés, etc. Alors, il n'y aura pas de droit au retour qui signifierait le droit d'émigrer en Israël en contravention avec la politique israélienne d'admission, ou un droit au retour qui menacerait le caractère juif de l'État. Mais par contre, il y aurait droit au retour autorisant les gens à rentrer dans la Palestine historique, c'est-à-dire dans le territoire qui serait accordé à l'État palestinien, et non pas dans le territoire israélien. Donc toute une série d'options, je passe sur les détails, sont déterminées, ce qui conduirait à donner au peuple palestinien la possibilité de déterminer son avenir sur sa propre terre, dans le cadre d'un État souverain viable reconnu par la communauté internationale avec El-Quds comme capitale, la souveraineté sur le Haram et une vie nouvelle pour les réfugiés. Et du côté israélien, sécurité, fin du conflit, préservation de ses engagements religieux, intégration de 80% des colons. Ce sont conclusions, c'est le mieux que je puisse faire. Informez vos dirigeants. Dites-moi s'ils sont disposés à venir me rejoindre pour mener des discussions fondées sur ces idées. Si tel est le cas, je les rencontrerai la semaine prochaine séparément. Sinon, qu'ils sachent que je suis allé aussi loin que possible. Ce sont mes propositions. Si elles ne sont pas acceptées, elles ne seront pas seulement mises de côté, elles disparaîtront avec moi lorsque je quitterai la Maison Blanche. En sortant de la réunion, l'un des membres de l'équipe israélienne demande « Pourquoi si tard ?» Tout aurait pu être différent si vous aviez soumis cette proposition en septembre ou à Camp David. Alors, grande angoisse sur la suite des événements, mais nous allons faire la pause. Et donc, vous saurez si ces propositions ont été acceptées ou non.